Nous sommes en compagnie de Tseng Lunyan, auteur, consultant et conférencier né à Shanghai et qui partage son temps entre la France et la Chine. Son dernier livre, Le bonheur de la bouche aux éditions Michel de Maulle, s'intéresse aux fondamentaux de la cuisine chinoise, quintessence d'un art de vivre qui puise très loin ses racines dans l'histoire de la civilisation chinoise. Côté pratique, on trouve un répertoire des bonnes tables chinoises de par le monde et bien sûr quelques recettes. Bref, un livre qui fait saliver. Je rappelle que Tseng Lunyan sera ce soir 24 janvier à 19h à Voyageurs du Monde pour une conférence en partenariat avec les amitiés franco-chinoises de Lille. Alors Tseng Lunyan, vous avez reçu en héritage cette passion pour la bonne chère.
Oui, en fait, j'ai écrit ce livre pour différents motifs. Le premier, c'est l'amour inconditionné pour la bonne nourriture héritée de mon père, une fine gueule de son époque.
Et vous avez connu enfant, avec votre père justement, les fastes du Paris de l'Orient, c'est-à-dire Shanghai, avant la Révolution culturelle.
Plus précisément avant 1956, parce qu'après c'est la nationalisation et puis l'idéologie prolétaire va gagner toute la Chine. Donc du coup, il n'était plus question de parler de la gastronomie, parce que c'était considéré comme un style de vie bourgeois.
Et ça pouvait être dangereux ?
Oh, c'était pas dangereux. De toute façon, après le grand bon temps d'avant, on n'avait pas grand-chose à manger.
Oui, la question se posait plus.
Et les grands chefs sont partis. Ils sont partis à Hong Kong, ils sont partis à Taïwan, parce qu'il n'y avait plus de clientèle.
Et quel souvenir donc vous avez de ces fréquentations de restaurants avec votre père ?
En fait, c'était les derniers feux de Shanghai, la Belle. Depuis les années 30, 40, début 50. Et donc, mon père m'emmenait dans les meilleurs restaurants de Shanghai, avec son club, son cénacle de gastronomes. Et donc, j'ai sillonné tous ces bons restaurants. J'ai connu quand même la vraie gastronomie à l'époque, qui a disparu depuis, malheureusement.
Ah ben, si vous nous dites que ça a disparu, du coup, quand on va à Shanghai, on n'a plus qu'à regarder de votre livre pour quand même avoir les bonnes adresses. Ce n'est donc peut-être pas un hasard si vous habitez aujourd'hui en France, l'autre pays de la gastronomie ?
Certainement. Parce que il y a deux semaines, même un peu plus, je participais à un colloque à l'université de La Rochelle sur l'art culinaire chinois, porte d'entrée, considéré comme une porte d'entrée à la civilisation. Une des meilleures portes d'entrée peut-être. Et on est arrivé à la conclusion que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays où l'on vraiment on est entiché de la bonne chère. Peut-être il n'y en a que deux, la Chine et la France.
Bon, et d'ailleurs en Chine comme en France, on vit pour manger et pas le contraire.
Voilà, nous vivons pour manger, ça c'est... Voilà. Tout à fait vrai.
Et nous ne mangeons pas pour vivre. C'est vraiment une cuisine de gastronome. Quel est l'aliment chinois qui vous manque le plus en France ?
Pour moi, c'est... Vous savez, moi j'ai quelques aliments pour moi essentiels dans la vie. C'est d'abord le tofu. Qu'est-ce qu'on dit ? Le fromage de soja ou le caillé de soja, etc. Bon. Aujourd'hui, heureusement, à Paris, on peut en trouver de très bons. Hein, parce qu'il y a des gens de Wenzhou qui en fabriquent à Belleville, dans le 3e, qui sont d'excellents produits. Et un autre produit qui me manque beaucoup, c'est les pousses de bambou. Je ramène souvent dans mes valises des kilos de pousses de bambou frais depuis Shanghai.
Ça passe la douane, les pousses de bambou ?
Les douaniers français ne regardent pas trop, heureusement.
Alors, c'est quoi un bon tofu ?
Un bon tofu, bien sûr, il faut d'abord de bon soja, hein, c'est la base. Et bien sûr, tout le processus de fabrication, parce que le tofu, c'est un produit magique. On peut jamais échouer pour fabriquer de tofu, parce qu'à tous les états, l'état liquide, état coagulé, plus coagulé, moins coagulé et frit, il y a mille et une formes de tofu avec lesquelles on peut même préparer tout un banquet. En Chine, dans des restaurants végétariens, tu peux commander un repas, il y a de la viande, il y a du porc, du bœuf, il y a des crevettes, des poissons, mais que du tofu. Il n'y a rien de vrai, mais que du tofu. Mais c'est délicieux, excellent.
Ça veut dire que vous faites chez vous du tofu à la maison ?
Ah oui, très souvent. Chaque fois que je voyage, pendant quelques jours, de retour à la maison, il faut qu'il y ait du tofu.
Bon. Vous dites dans votre livre que comprendre la Chine, c'est comprendre ces choses de la bouche. Et vous ajoutez plus loin, manger est notre vraie religion. C'est quand même fort là du coup.
Pour moi, c'est tout à fait vrai parce que parcourir le monde, est-ce que vous trouverez un autre peuple qui soit aussi entiché de la bonne chair et de bien manger? Bon, les Français, mis à part, je n'ose pas le dire devant les Français, mais manger, c'est vraiment ancré dans notre civilisation, ancré dans notre culture. Et si vous comprenez pas l'importance, l'extrême importance de la nourriture pour les Chinois, vous comprendrez rien à la Chine.
Oui, c'est vrai. Les Chinois sont tous des descendants d'affamés, dites-vous. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils mangent beaucoup.
Tout à fait. Pas seulement beaucoup, mais sauf... C'est-à-dire, nous sommes tous descendants des affamés. Nos ancêtres étaient des paysans, et les paysans ont subi combien de disettes dans l'histoire de Chine. Et donc, c'est pour cela que notre chaîne alimentaire est extrêmement longue, parce que nos ancêtres ont tout essayé dans la nature. Donc, ils ont tout gardé, sauf les aliments toxiques. Beaucoup de nos ancêtres ont dû périr à cause de cette tentative. Et puis, ça a conditionné aussi notre manière de cuisiner. Les Chinois coupent fin les aliments pour en extraire même. Les Chinois mangent, sucent des os, la tête de poisson, les ailes de canard, etc. Pour en extraire le meilleur de tous ces aliments.
Oui, c'est vrai qu'en Chine, on mange tout. Ça m'avait beaucoup étonné. Et quand on vous sert le poulet, on a coupé avec une pince, mais le poulet, tout, les os, la chair, la peau. Ah,
bien sûr,
tout.
Parce que nous croyons dur comme fer que la meilleure chair se trouve autour des os. Vous goûtez, par exemple, la chair qui se trouve dans des ailes, dans des pattes de poulet, ça n'a pas du tout le même goût que celui du blanc de poulet.
Bien sûr.
C'est beaucoup, beaucoup mieux.
Ah, c'est différent en tout cas. Moi j'aime bien
pour
le blanc,
moi,
mais bon, on ne va pas se battre là-dessus. Alors, votre menu de réveillon 2016, que vous citez dans votre livre, est quand même franchement impressionnant. Parce qu'il y a 8 assiettes froides, 8 plats chauds, une fondue d'accueil du Nouvel An, un plat de résistance et un dessert. Vous avez mangé tout ça?
Vous savez, dans la cuisine chinoise, on goûte à tout. On n'a pas besoin de tout finir. Mais il faut qu'il y ait quand même une pléthore de plats pour célébrer, pour accueillir le printemps qui arrive. Et en plus, pour quand la famille se réunit, il faut qu'il y ait de bonnes bouffes.
Est-ce qu'il y a un nombre limite de plats pour une fête?
Non, il n'y a pas de limite. Vous savez, les empereurs avaient, la dernière impératrice avait devant elle, à chaque repas, 100 plats.
Oui, mais je pense que c'est une limite minimum. Hein.
Ah oui, minimum. Non, il ne faut pas aller en deçà du nombre des invités. C'est-à-dire, oui. Si vous invitez 10 personnes, il faut au moins 10 plats.
Bon, et puis si on en met 20, c'est mieux.
C'est mieux.
Bon, ben je retiens la leçon. Alors, contrairement à une idée reçue, d'ailleurs, vous dites que les Chinois ont des desserts.
Bon, ça dépend de ce que vous appelez le dessert. Parce qu'en France, la cuisine est codifiée. Vous avez, bon, je ne sais pas depuis combien de temps, peut-être pas depuis les Gaulois. Mais donc, vous avez entrée, plat, dessert. Entre les deux, peut-être il y a le fromage. Mais un repas chinois n'est pas codifié. Le sucré, le salé, l'acide et tout, ça peut arriver en même temps. Donc, si vous appelez le dessert des aliments sucrés, et les Chinois, nous savons faire.
Oui, je pensais au sucre, effectivement, mais ça ne veut pas dire qu'on va le manger à la fin du repas.
Non.
On va le manger quand on a envie.
Non. Maintenant, bien sûr, comme la Chine s'occidentalise, à la fin du repas, généralement, on vous apporte aussi une pastèque, quelque chose de sucré pour finir. Mais beaucoup de Chinois préfèrent finir sur un goût salé. Parce que, par exemple, moi, quand j'ai mangé trop sucré, à la fin, je prends quelque chose de très, très salé pour apaiser l'estomac, comme je dis.
Oui, et puis pour faire le contraste aussi.
Oui.
Alors, 4 caractères suffisent à résumer les caractéristiques de la cuisine chinoise, dites-vous dans votre livre. Est-ce que vous pouvez détailler ces caractères?
Alors, donc, c'est avant tout, c'est un rite. le caractère li, c'est parce que la cuisine chinoise, l'art culinaire chinois s'est développé au fil des millénaires, depuis déjà l'époque des Zhou, avant plusieurs siècles avant Jésus-Christ, et c'était dans la cour impériale, donc c'était un rite, un rituel. Donc les Chinois respectent un rituel social dans les repas, ce qui est très important pour les Chinois. Et bien sûr, il y a la beauté, il y a la finesse, il y a tout ça qui ajoute. Mais la quintessence, c'est quand même la saveur.
Mais c'est quand même les rites d'abord, et oui. Ensuite le reste.
Oui, oui.
Alors les Chinois ont porté l'art du banquet à son apogée, donc toutes les occasions sont bonnes. On fait un banquet, pourquoi ?
Toutes les occasions sont bonnes, comme vous dites. Donc c'est à chaque occasion, bien sûr les anniversaires, les fêtes en premier lieu, la fête du printemps, ça veut dire le nouvel an chinois, et puis même au décès, aux funérailles, après les obsèques, on se réunit pour un bon gueuleton, pour célébrer...
Pour célébrer
la
le
disparition.
Départ. Cela dit, en France, ce fut longtemps une tradition aussi.
Ah oui.
Dans les campagnes. Je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais c'était le cas dans les campagnes. Mm-hmm. Manger rend heureux un Chinois, mais est-ce le fait de manger ou simplement de partager le repas avec les autres ?
En fait, c'est d'abord c'est manger. Manger la saveur, apprécier la saveur. Et puis, bien sûr, apprécier la compagnie des gens. Ça va avec.
En fait, il n'y a pas une cuisine chinoise, mais des cuisines chinoises.
Et combien ? Donc, je peux dire avec fierté qu'il n'y a pas un autre pays. Je mets toujours en bémol la France. Parce que, bon, où vous voyagez, vous pouvez aller n'importe où, dans chaque recoin du pays, et vous mangez bien. Bon et bien. Sauf peut-être, je mets en exception peut-être la région du Tibet, parce qu'ils sont trop, ils sont perchés haut, il n'y a pas de produits là-bas, parce que d'abord il faut avoir un terroir.
Ils mangent du beurre de yak.
Oui, c'est ça, oui, mais c'est un peu limité quand même.
Je n'ai pas, goûté, mais bon. D'ailleurs, en Chine, on peut manger tout le temps.
On mange tout le temps, c'est pas, on peut manger tout le temps. Parce que il y a une sorte de nourriture méconnue peut-être en France, c'est ce qu'on appelle les petites collations. Les Français, vous avez des amuse-gueules ou des Anglais, des snacks, mais ça n'a rien à voir avec les xiaoch, les petites collations chinoises. C'est une variété inouïe. Et chaque région, chaque ville, chaque village, même a ses propres petits mangers, ce qu'on appelle petites collations. Peut-être une pâte de poulet, peut-être des dim sum, des gâteaux. Il y a plein de choses qui nous permettent de manger tout le temps. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'aller dans des restaurants pour manger. Souvent, les gens mangent non pas parce qu'ils ont faim. Et on se balade, on se parle, même lors des réunions, on mange quelque chose. C'est aussi un rite.
Et donc on mange à n'importe quelle heure ?
N'importe quelle heure, pratiquement, sauf quand on dort.
Bon, bah nous, parce qu'il faut quand même digérer à un moment, si oui. On mange tant. Alors l'histoire de la cuisine chinoise, c'est donc aussi celle de la civilisation chinoise, avec tout ce que vous nous dites là.
Si vous regardez les documents historiques, vous trouvez des recettes, des rites qui datent de plusieurs milliers d'années. Déjà à l'époque des Zhou, c'est-à-dire 3 siècles avant Jésus-Christ.
Et d'ailleurs, on dit que Huangdi, le fameux empereur jaune, qui a été l'inventeur de la médecine et de l'acupuncture, aurait inventé les 5 céréales, soja, riz, blé, orge, millet. Ça veut dire qu'on fait aussi remonter les céréales, donc la base de la nourriture, à une origine lointaine et presque mythique.
Oui, c'est tout à fait. C'est pour ça que nous considérons comme des descendants de Huangdi. C'est celui qui nous a apporté la nourriture.
Alors, on a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas un ordre des plats, donc dans un repas chinois, tout est sur la table, tout arrive en même temps, et tout le monde se sert, on partage en fait. C'est un peu la notion du partage, parce que nous, on a un plat devant une assiette, et un plat devant nous, et puis on mange pas dans l'assiette du voisin, et on partage pas du coup le plat. C'est pas du tout la même notion.
Non, en fait, tout n'est pas apporté sur la table d'un non. seul coup. Ça dépend, bien sûr, quand on mange chez soi, trois ou quatre plats, tout est mis sur la table. Mais un repas officiel ou un repas de ville, quand même, il y a un certain ordre. On commence par les plats froids ou ce qu'on appelle ce que les Français appellent les hors d'œuvre, et ensuite suivi des plats chauds, des plats sautés. Ça veut dire les plats chauds en Chine, c'est les plats sautés, et on finissait surtout par des grosses pièces comme un grand jambonneau, un poisson entier, un poulet entier. Mais comme aujourd'hui on a trop à manger presque, et on a trop de nutritifs dans le corps, donc on réduit, on supprime les grosses pièces, parce que un jambonneau, c'est difficile à avaler quand même, c'est tout entier.
Ben, c'est le même mouvement qu'en Europe. Effectivement, on mange moins en Europe que... Enfin, ça dépend...
Non, on mange pas moins, on mange plus varié, mais en supprimant les grosses pièces.
C'est vrai que le gibier, par exemple, chez nous, c'est devenu plus rare.
Ah oui.
Vous avez dit tout à l'heure que vous aimiez bien finir un repas sur une note salée. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu le symbolisme des cinq saveurs ? Sucré, salé, acide, amer et pimenté.
Oui, en fait, ça dépend aussi des régions. Dans le nord, c'est beaucoup plus salé que dans le sud. Dans le bassin du Yangtze, on mange assez sucré. Sucré, ça ne veut pas dire les desserts, c'est sucré, c'est on met du sucre dans les plats. Ce que détestent les gens du nord. Et nous, les Shanghaïens, on aime bien mettre d'abord, bien sûr, le sel, mais aussi du sucre et du vin de riz dans les plats. Et nous aimons beaucoup ce goût de mélange, mais les gens d'ailleurs ne l'apprécient pas. Donc chaque région a sa spécialité et qui a développé leur propre goût. Par exemple, dans certaines régions qui produisent beaucoup qui produisent du vinaigre, eh bien, on mange assez acide. Mais une chose qui peut-être surprendre les Français qui connaissent pas la Chine, c'est que le petit déjeuner chinois c'est essentiellement salé.
Et puis c'est un sacré repas.
Bien sûr,
il est drôlement imposant.
Non, ça dépend des régions. Les cantonais, oui. Le petit déjeuner cantonais est très, très copieux. C'est ce qu'ils appellent yum cha, c'est boire du thé. Le thé matinal des cantonais, c'est exceptionnel. On va dans des restaurants, on commande un thé, mais après, des chariots qui vous apportent des petites collations, toutes sortes. On peut manger jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Alors que dans d'autres régions, surtout du nord, le petit déjeuner est plus simple. Souvent un bol de nouilles, mais bien sûr salé.
Oui, ça change, effectivement. Quelles sont les régions les plus réputées pour la cuisine chinoise?
Une pente
colle. À part Shanghai, la vôtre,
non,
évidemment.
Non, je ne suis pas si chauvin que ça, je suis de Shanghai, mais je dirais que quand même, il y a un dicton chinois qui dit « pour manger, allez à Guangzhou », à Canton.
Ah oui, c'est quand même le sud. Ah,
c'est le top du raffinement de l'art culinaire chinois.
Quel est votre plat préféré, celui qui vous ferait traverser toute la Chine ou prendre l'avion à Paris juste pour le déguster?
J'aime beaucoup, encore une fois, le tofu, mais d'une certaine manière. C'est une spécialité du Sichuan, c'est le mapo tofu. Le tofu à la femme au visage grêlé. C'est-à-dire, au départ, c'était une femme au visage grêlé qui a inventé la recette. Et c'est un plat extrêmement simple, mais très difficile à faire. Je n'ai mangé que deux fois dans ma vie le vrai mapo tofu. Une fois dans Chengdu, la capitale de la gastronomie, une des capitales de la gastronomie chinoise, et l'autre fois à Pékin. Donc, à part ça, là où je commande, même en France aussi, ça, dans les restaurants, on sert ce plat, mais c'est pas authentique.
Oui, en fait, on appelle ça le tofu grand-mère ou un truc comme ça.
Oui, on peut dire ça.
C'est pas mauvais en même temps, mais évidemment, c'est probablement pas le même qu'à Chengdu.
Non.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner un petit guide rapide des bonnes manières à table dans un restaurant en Chine ? Parce que les bonnes manières à table dans un restaurant en Chine, c'est pas la même chose qu'en France.
Oui. En fait, les Chinois ne sont pas très rituels dans les repas, sauf dans des repas officiels. Donc on mange comme on veut, on peut laisser dans l'assiette, on peut laisser dans les plats. On n'a pas besoin de tout finir. Mais bien sûr, la façon de s'asseoir.
Non, c'est bon.
Donc la façon de s'asseoir à la chinoise, il faut la respecter. Et en Chine, on respecte d'abord la hiérarchie sociale, la hiérarchie générationnelle. Donc ça, il faut respecter. Et puis quand vous portez des toasts, il faut aussi respecter les personnes âgées, les personnes haut placées, etc. Donc il y a un certain nombre de rites à respecter.
À propos de toast, il y a le fameux Ganbei qui a fait pâlir plus d'un étranger, que vous n'oubliez pas. Et moi j'ai l'impression que c'est peut-être le premier mot de chinois que nous apprenons quand nous arrivons en Chine.
Tout à fait. Donc un repas, c'est un jeu. Parce qu'en Chine, on aime bien jouer. Donc il faut participer au jeu. Et non pas manger tout seul silencieusement de son côté. Ça c'est la première chose à ne pas faire.
Et alors, quand on va seul au restaurant, comment on fait ?
On peut papoter avec ses voisins.
Oui, voilà, c'est ça, on ne reste pas isolé.
Non.
Alors, vous citez à un moment Lao Tzu qui disait « Gouverner la Chine revient à cuire un petit poisson ». Et moi, je me suis dit qu'on n'était pas loin d'une certaine philosophie politique.
Ah, bien sûr, c'est une citation de Lao Tzu qu'a cité chaque empereur à son avènement. Et que les empereurs n'ont cessé de commenter jusqu'au dernier, M. Xi Jinping, à son arrivée au pouvoir, dans son discours, il a cité il a bien hérité des traditions impériales pour citer cette citation. Effectivement, cuire un petit, il n'y a rien de plus simple, mais de plus compliqué que de cuire un petit poisson, parce que ça se désintègre très, très facilement. Si vous mettez trop de feu, si vous remuez trop, etc. Donc la politique, c'est aussi un art, comme cuire un petit poisson.
C'est vrai, faut pas mettre le feu trop fort. La mondialisation culinaire menace-t-elle la cuisine chinoise ?
Pardon ?
La mondialisation culinaire. Oui. Vous pensez que la Chine pourrait
La Chine subit
identité.
Déjà des influences étrangères comme les McDo, les Kentucky Fried Chicken et tout qui sont partout en Chine, qui conditionnent maintenant la manière de manger surtout des jeunes. Bon, ceci dit, je pense pas que l'estomac chinois soit éducable. C'est une citadelle qu'on prend difficilement.
Bon, et bien sûr, ces mots, je remercie Tseng Lunyan. Je recommande la lecture de votre livre « Le bonheur de la bouche » qui n'a aucun équivalent dans l'édition française. Et puis n'hésitez pas à tester les restaurants chinois, les vrais, proposés à la fin du livre. En tout cas, on vous retrouve ce soir, 24 janvier, à 19h à Lille, à la librairie Voyageurs du Monde, au 147 boulevard de la Liberté, pour une conférence.